Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec le titre. Kofi Annan considère l'Indonésie comme un bon exemple de pluralisme. L'Indonésie et le Suriname forment la commission conjointe et la consultation politique. L'OIT souligne l'importance du développement des compétences du domaine d'offre. Le mode de travail fait face au double défi. Des pyjamas offrent une aide pour le séisme. Labuan Bajo reçoit le prix de la destination touristique favorite internationale. Cher ami, nous présentons maintenant le journal complet. La démocratie est un système qui est le mieux adapté pour maintenir le pluralisme ou la diversité dans le monde. C'est ce qu'a affirmé l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, dans son discours d'ouverture lors de la 9e ouverture du Forum de Bali pour la démocratie, jeudi à Nusa Dua, Bali. Kofi Annan a rappelé la véritable démocratie maintenir les droits et les libertés de tous les individus devant la loi et institutions sans distinction de race, de sexe ou la religion. Kofi Annan considère l'Indonésie comme un exemple parfait de démocratie et de diversité. Il n'y a aucun pays qui est plus bon pour livrer ce message que l'Indonésie, sauf l'Indonésie avec la devise nationale Bhinneka Tunggal Ika ou l'unité dans la diversité. Ce grand pays se compose d'environ 300 groupes ethniques et plus de 700 langues et de nombreuses confessions réparties dans un vaste archipel est une confirmation encourageante que le pluralisme peut fonctionner. Selon Kofi Annan, Bali, donc l'héritage et les traditions uniques comme destination touristique mondiale, ont montré les avantages de maintenir la diversité en Indonésie. Le 6e Forum de démocratie de Bali a lieu du 8 au 9 décembre 2016, assisté par les délégations de 89 pays et 5 organisations internationales. Le thème du forum est la religion, la démocratie et pluralisme. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, a fait une rencontre bilatérale avec le ministre des Affaires étrangères de Suriname, Nirmala Badrisinghe, à Nusa Dua, Bali. La réunion a été faite avant la mise en œuvre du 9e Forum démocratique de Bali. C'est la première visite du ministre des Affaires étrangères de Suriname à l'Indonésie. La réunion a discuté de la préparation de la coopération dans la commission conjointe et la consultation politique qui aura lieu en février 2017 à Suriname.
Yang pertama adalah kerjasama di antara Kementerian Luar Negeri, so cooperation between the two foreign minister.
Le premier est la coopération entre le ministère des Affaires étrangères, y compris le développement des programmes d'études du centre de formation diplomatique qui est arrivé développé au Suriname. Nous sommes heureux de partager notre expérience dans le développement du centre diplomatique qui existe en Indonésie. Le deuxième domaine de la coopération que nous voulons donner la priorité est la société dans le tourisme. Donc, le Suriname a l'intention d'apprendre beaucoup de choses de l'Indonésie dans le développement du tourisme. Selon Mme Retno Marsudi, la réunion a également discuté de la coopération dans le domaine des plantations de palmiers à huile. Au Suriname, il existe de nombreuses possibilités pour l'Indonésie à investir dans ce domaine. D'autres coopérations sont dans le domaine de l'infrastructure. Actuellement, le Suriname est en train de construire des infrastructures. En outre, les deux pays ont convenu de coopérer dans le domaine du climat, notamment dans la prévention des inondations. Le Suriname est l'un des marchés potentiels qui est assez grand pour l'Indonésie et la porte d'entrée du commerce indonésien vers les pays de la région. En 2015, la valeur du commerce bilatéral entre les deux pays a atteint plus de 7 millions de dollars américains et jusqu'à novembre 2016, il y avait 600 citoyens indonésiens au Suriname. Les compétences du travailleur sont des facteurs importants qui devraient être développés. Cela a été confirmé par la directrice du développement des politiques et de l'emploi du BIT, Ajita Berar Awad, lors d'une 16e réunion de l'OIT de la région de l'Asie et du Pacifique à Nusa Dua, Bali, récemment. Selon elle, les efforts visant à améliorer les compétences individuelles des gens ont un grand impact sur le secteur de l'emploi.
We have seen how skills are important for individuals, for better.
Nous avons vu comment les compétences sont importantes pour les individus, pour obtenir un meilleur traitement de la part de l'employeur, pour avoir les meilleurs revenus, de meilleurs pour le travailleur, les meilleures perspectives d'emploi. En outre, l'accès aux efforts de l'augmentation des compétences est prouvé de réduire la pauvreté et les inégalités, améliorer l'impact à long terme dans le marché du travail. En outre, Ajita Berar Awad a déclaré que l'amélioration des compétences de la main-d'œuvre serait également affecter les performances et la productivité des entreprises qui généreront de meilleurs revenus pour les travailleurs. Selon elle, une augmentation des compétences de la main-d'œuvre est un facteur important qui doit être pris en compte dans les efforts de transformation de la production dans le secteur de l'emploi. Les efforts actuels visant à développer l'économie et la productivité dépendent de l'amélioration des compétences de la main-d'œuvre. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La directrice du département des politiques et de l'emploi du BIT, Ajita Berar Awad, lors d'une série de la 6e réunion de l'OIT de la région de l'Asie du Pacifique, a révélé récemment à Nusa Dua, Bali, les défis qui sont faits face par le monde du travail aujourd'hui. Selon elle, le marché du travail aujourd'hui a subi des changements significatifs. Ces changements sont influencés par beaucoup de choses, y compris les progrès technologiques et la transition démographique. Et comme nous le savons et nous avons discuté de ces changements sont entraînés par des forces multiples, entre autres le développement technologique, l'innovation et la transition démographique. Et nous avons vu également dans la région des forces très importantes. Nous avons tous deux le vieillissement de la population. Mais nous avons également vu de nombreux pays de la région affectés par la vulnérabilité causée par le conflit et le changement climatique, ainsi que des catastrophes naturelles. La question des compétences dans tous ces contextes est très importante. L'intégration économique est également en train de devenir un facteur important dans l'amélioration des compétences de la main-d'œuvre. Selon elle, cette dynamique intensifierait les accords commerciaux régionaux qui sont plus grands. Cette initiative permettra d'accélérer les changements structurels dans l'économie, le marché du travail et aussi l'amélioration des compétences de travail en même temps. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré qu'il y avait des offres d'aide des pays amis pour les victimes du tremblement de terre de 6,5 sur l'échelle de Richter à Aceh. Cela a été déclaré la ministre dans une conférence de presse après avoir organisé 14 réunions bilatérales à Nusa Dua, Bali. Mais selon Mme Retno Marsudi, l'Indonésie est encore compté le nombre de victimes et la capacité du gouvernement à faire face au tremblement de terre à Aceh. Lors d'un discours au 6e Forum de Bali pour la démocratie, elle a exprimé la haute gratitude aux pays amis dans le monde entier pour la lettre de condoléances associée au tremblement de terre à Aceh. Sur la base des données de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, jeudi, environ 102 personnes sont mortes, une personne disparue, 128 personnes ont été gravement blessées, 489 personnes ont été légèrement blessées et des centaines de bâtiments endommagés. La zone touristique de Labuan Bajo, Nusa Tenggara Est, reçoit le prix en tant que la destination touristique favorite internationale à travers les résultats d'un sondage du ministère indonésien du tourisme. Le responsable du tourisme et l'économie créative à Nusa Tenggara Est, M. Marius Ardu Jelamu, a déclaré à Kupang jeudi que le prix a été présenté par le ministre du Tourisme le mercredi 7 décembre à Jakarta. Labuan Bajo a reçu le prix à travers la sélection faite par le ministère du Tourisme et l'économie créative après avoir vu tous les enregistrements du tourisme dans le monde entier ainsi que le tourisme antérieur. De plus, Labuan Bajo devient la destination touristique favorite après l'enquête réalisée par CNN, indiquant Labuan Bajo est le deuxième meilleur endroit snorkeling du monde après Raja Ampat. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Après le journal, maintenant, vous pouvez écouter le commentaire et un peu le titre. Le rôle et la performance du 9e Forum de la démocratie de Bali doivent être optimisés. L'Indonésie continue d'essayer d'être un bon exemple en termes de démocratie. Au moins, cela est évident quand un certain nombre de ministres des Affaires étrangères assisteront à la 9e conférence de Bali sur la démocratie, tenue à Bali pendant 2 jours. Ouverte par le président Joko Widodo hier, le forum ne vise pas seulement à devenir un moyen d'échange d'expériences entre les pays, mais aussi à s'entraider dans le développement d'une démocratie mature. L'Indonésie, comme initiateur, tente toujours d'être en bonne note. Lors du discours d'ouverture, le président Joko Widodo a déclaré qu'en plus d'être un bon exemple, l'Indonésie offre également de bonnes intentions de coopérer pour développer la démocratie, créer et maintenir la paix. Cette offre reflète également des préoccupations concernant l'incapacité de soutenir pleinement la démocratie réelle dans certains pays, comme par exemple en Palestine, au Myanmar et dans d'autres pays. Comme il y a encore des pays qui n'ont pas encore adopté un système pleinement démocratique parce qu'ils continuent à pratiquer un système monarchique. Le Forum de Bali sur la démocratie est une réunion annuelle des pays asiatiques qui se tient tous les mois de décembre à Bali, Indonésie. Ce forum, initié par l'Indonésie il y a 9 ans, vise à renforcer les capacités de la démocratie et des institutions démocratiques à travers des discussions entre les pays membres. Pour la première fois, ce forum a réuni 20 ministres des Affaires étrangères qui représentaient leurs pays respectifs. Certains problèmes liés à la démocratie continuent d'émerger dans certains pays des participants au Forum de Bali sur la démocratie. Les problèmes tels que l'intolérance et la violence contre certains groupes deviennent réalité dans un certain nombre de pays d'Asie, même le monde. Les questions de la Palestine, la violence contre les minorités ethniques au Myanmar et le conflit prolongé en Syrie sont des devoirs difficiles pour le Forum de Bali sur la démocratie. Comme tenu, beaucoup de problèmes démocratiques sont confrontés par le monde. Évidemment, maintenant, l'existence du Forum de Bali sur la démocratie est encore très pertinente. Son rôle devrait être amélioré pour l'avenir et son utilité peut être plus réelle et fiable. C'était le commentaire de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, merci d'être fidèles à notre antenne La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 9 décembre 1987 est le premier jour du mouvement de réveil des Palestiniens, appelé Intifada, contre le régime sioniste qui avait envahi leur patrie. La première Intifada, appelée également Guerre des Pierres, est un soulèvement de la population palestinienne contre l'Israël qui a débuté le 9 décembre 1987 et qui a pris fin en 1993 lors de la signature des accords dits d'Oslo. La lutte de l'intifada jusqu'à aujourd'hui continue pendant l'occupation sioniste en Palestine n'a pas terminé. Le 9 décembre 1990, Lech Walesa est le premier président polonais élu directement à travers des élections en remportant 74% de voix. L'élection de Walesa a fait de la Pologne célébrée dans le monde entier parce qu'il est le seul président parmi les travailleurs qui a aussi battu la Pologne contre le communisme depuis 1940. Il est né le 29 septembre 1943 à Popowo, la Pologne. Il est un syndicaliste et homme d'État polonais et aussi l'ancien électricien. Symbole de la liberté en Pologne, Lech Walesa a obtenu le prix Nobel de la paix en 1983 pour son action au sein du syndicat Solidarność. Le 9 décembre a été déclaré comme la Journée internationale de la lutte contre la corruption. Le 31 octobre 2003, l'Assemblée générale a adopté la Convention des Nations unies contre la corruption et a prié le secrétaire général de charger l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime d'assurer le secrétariat de la Conférence des États parties à la Convention. Le 9 décembre a été déclaré Journée internationale de lutte contre la corruption afin de sensibiliser le monde à ce problème et pour faire connaître le rôle de la Convention en matière de lutte et la prévention. En 2014, l'ONUDC et le PNUD ont développé une campagne globale conjointe soulignant l'impact de la corruption sur l'éducation, la santé, la démocratie, la prospérité et le développement. La Convention des Nations Unies contre la corruption est entrée en vigueur en décembre 2005 et l'Indonésie a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption en 2006. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Avant d'écouter le rappel du titre de l'actualité, nous vous présentons la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Sixième longtemps, voici donc la mise au point et pour le titre, l'Indonésie est prête à aider les Rohingyas. Le vice-président Mohamed Yusuf Kalla assure que l'Indonésie aidera à résoudre les problèmes de Rakhine au Myanmar qui frappent les musulmans de Rohingyas. Le vice-président Yusuf Kalla à Nusa Dua Bali mardi, comme cité par Antara, a dit « L'Indonésie voulait trouver des bonnes solutions bien que cela soit une question antérieure du Myanmar ». Yusuf Kalla a admis que l'Indonésie était prête à donner des conseils pour trouver la meilleure solution, contribuer également à trouver des solutions pour le Myanmar. Il a prétendu être prête à partir pour le Myanmar pour fournir une aide humanitaire aux victimes ethniques de l'État fédéral de Rakhine. Youssef Kalla a également salué la diplomatie de la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Apemarsudi, qui est venue au Myanmar à l'invitation du chef de facto Aung San Suu Kyi. Madame Retno Apemarsudi, mardi soir, a tenu une réunion avec le dirigeant du mouvement de la démocratie au Myanmar, Aung San Suu Kyi. Cette réunion était une série des fautes diplomatiques indonésiennes pour aider à résoudre les différends à Rakhine. Selon Youssef Kalla, la présence de Mme Retno Marsudi est une direction du président Joko Widodo que l'Indonésie a contribué à résoudre pacifiquement le conflit en Rakhine. Le vice-président a aussi déclaré que l'Indonésie va envoyer l'aide humanitaire au Rakhine pour aider les réfugiés de Rohingya, y compris de fournir l'aide humanitaire de sorte que ce qui était redouté ne se produit pas. Le conflit dans Rakhine au Myanmar a augmenté depuis le début de novembre 2016. Pendant ce temps, le président du Comité national pour la solidarité des Rohingya, Suhel Maidi Shukur, a évalué que sur la base de tous côtés, la violence et la persécution des musulmans Rohingya ne pouvaient pas être justifiées. Selon Suhel Maidi, à l'époque actuelle, la violence ne se produit jamais et même les traites injustes contre un groupe ethnique et reconnues son existence. De plus, il y a des indications de génocide contre les musulmans de Rohingya qui auraient été commis par les groupes militaires et l'extrémisme bouddhiste. En outre, l'incident de l'incendie des résidences et l'explosion des musulmans de Rohingya qui les oblige à rester dans les camps de réfugiés. Il y a aussi des musulmans Rohingya qui sont bloqués dans les pays voisins tels que le Bangladesh, la Malaisie, la Thaïlande, y compris l'Indonésie. Donc, il espère que le gouvernement indonésien pourrait prendre des mesures pour aider, sauver et améliorer les conditions des musulmans de Rohingya. Ainsi, les Rohingya se remettront leurs droits en tant que citoyens et les êtres humains. C'était la mise au point pour ce soir.
La démocratie est un système qui est le mieux adapté pour maintenir le pluralisme ou la diversité dans le monde. C'est ce qu'a affirmé l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, dans son discours d'ouverture lors de la 9e ouverture du Forum de Bali pour la démocratie jeudi à Nusa Dua, Bali. Kofi Annan a rappelé « La véritable démocratie maintenait les droits et les libertés de tous les individus devant la loi et institutions sans distinction de race, de sexe ou la religion ». Kofi Annan considère l'Indonésie comme un exemple parfait de démocratie et de diversité. Il n'y a aucun pays qui est plus bon pour livrer ce message que l'Indonésie, sauf l'Indonésie avec la devise nationale Bhinneka Tunggal Ika ou l'unité dans la diversité. Ce grand pays se compose d'environ 300 groupes ethniques et plus de 700 langues, et de nombreuses confessions réparties dans un vaste archipel est une confirmation encourageante que le pluralisme peut fonctionner. Selon Kofi Annan, Bali, donc l'héritage et les traditions uniques comme destination touristique mondiale, ont montré les avantages de maintenir la diversité en Indonésie. Le 6e Forum de démocratie de Bali a lieu du 8 au 9 décembre 2016, assisté par les délégations de 89 pays et 5 organisations internationales. Le thème du forum est la religion, la démocratie et pluralisme. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a fait une rencontre bilatérale avec le ministre des Affaires étrangères de Suriname, Nirmala Badrisinghe, à Nusa Dua, Bali. La réunion a été faite avant la mise en œuvre du 9e Forum démocratique de Bali. C'est la première visite du ministre des Affaires étrangères de Suriname à l'Indonésie. La réunion a discuté de la préparation de la coopération dans la commission conjointe et la consultation politique qui aura lieu en février 2017 à Suriname.
Yang pertama adalah kerjasama di antara Kementerian Luar Negeri, so cooperation between the two foreign ministers.
Le premier est la coopération entre les ministères des Affaires étrangères, y compris le développement des programmes d'études du Centre de formation diplomatique qui est arrivé développé au Suriname. Nous sommes heureux de partager notre expérience dans le développement du Centre diplomatique qui existent en Indonésie. Le deuxième domaine de la coopération que nous voulons donner la priorité est la société dans le tourisme. Donc, le Suriname a l'intention d'apprendre beaucoup de choses de l'Indonésie dans le développement du tourisme. Selon Mme Retno Marsudi, la réunion a également discuté de la coopération dans le domaine des plantations de palmiers à huile. Au Suriname, il existe de nombreuses possibilités pour l'Indonésie à investir dans ce domaine. D'autres coopérations sont dans le domaine de l'infrastructure. Actuellement, le Suriname est en train de construire des infrastructures. En outre, les deux pays ont convenu de coopérer dans le domaine du climat, notamment dans la prévention des inondations. Le Suriname est l'un des marchés potentiels qui est assez grand pour l'Indonésie et la porte d'entrée du commerce indonésien vers les pays de la région. En 2015, la valeur du commerce bilatéral entre les deux pays a atteint plus de 7 millions de dollars américains et jusqu'à novembre 2016, il y avait 600 citoyens indonésiens au Suriname. Les compétences du travailleur sont des facteurs importants qui devraient être développés. Cela a été confirmé par la directrice du développement des politiques et de l'emploi du BIT, Ajita Berar Awad, lors d'une 16e réunion de l'OIT de la région de l'Asie et du Pacifique à Nusa Dua, Bali, récemment. Selon elle, les efforts visant à améliorer les compétences individuelles des gens ont un grand impact sur le secteur de l'emploi.
We have seen how skills are important for individuals.
Nous avons vu comment les compétences sont importantes pour les individus pour obtenir un meilleur traitement de la part de l'employeur, pour avoir les meilleurs revenus, de meilleurs pour les travailleurs, les meilleures perspectives d'emploi. En outre, l'accès aux efforts de l'augmentation des compétences est prouvé de réduire la pauvreté et les inégalités, améliorer l'impact à long terme dans le marché du travail. En outre, Ajita Berar Awad a déclaré que l'amélioration des compétences de la main-d'œuvre serait également affecter les performances et la productivité des entreprises qui généreront de meilleurs revenus pour les travailleurs. Selon elle, une augmentation des compétences de la main-d'œuvre est un facteur important qui doit être pris en compte dans les efforts de transformation de la production dans le secteur de l'emploi. Les efforts actuels visant à développer l'économie et la productivité dépendent de l'amélioration des compétences de la main-d'œuvre. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La directrice du département des politiques et de l'emploi du BIT, Ajita Berar Awad, lors d'une série de la 6e réunion de l'OIT de la région de l'Asie du Pacifique, a révélé récemment à Nusa Dua, Bali, les défis qui sont faits face par le monde du travail aujourd'hui. Selon elle, le marché du travail aujourd'hui a subi des changements significatifs. Ces changements sont influencés par beaucoup de choses, y compris les progrès technologiques et la transition démographique.
And as we know and we have discussed, these changes are driven by.
Et comme nous le savons et nous avons discuté de ces changements, sont entraînés par des forces multiples, entre autres le développement technologique, l'innovation et la transition démographique. Et nous avons vu également dans la région des forces très importantes. Nous avons tous deux le vieillissement de la population. Mais nous avons également vu de nombreux pays de la région affectés par la vulnérabilité causée par le conflit et le changement climatique, ainsi que des catastrophes naturelles. La question des compétences dans tous ces contextes est très importante. L'intégration économique est également en train de devenir un facteur important dans l'amélioration des compétences de la main-d'œuvre. Selon elle, cette dynamique intensifierait les accords commerciaux régionaux qui sont plus grands. Cette initiative permettra d'accélérer les changements structurels dans l'économie, le marché du travail et aussi l'amélioration des compétences de travail en même temps. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, a déclaré qu'il y avait des offres d'aide des pays amis pour les victimes du tremblement de terre de 6,5 sur l'échelle de Richter à Aceh. Cela a été déclaré la ministre dans une conférence de presse après avoir organisé 14 réunions bilatérales à Nusa Dua, Bali. Mais selon Madame Retno Marsudi, l'Indonésie est encore compté le nombre de victimes et la capacité du gouvernement à faire face au tremblement de terre à Aceh. Lors d'un discours au 6e Forum de Bali pour la démocratie, elle a exprimé la haute gratitude aux pays amis dans le monde entier pour la lettre de condoléances associée au tremblement de terre à Aceh. Sur la base des données de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, jeudi, environ 102 personnes sont mortes, une personne disparue, 128 personnes ont été gravement blessées, 489 personnes ont été légèrement blessées et des centaines de bâtiments endommagés. La zone touristique de Labuan Bajo, Nusa Tenggara Est, reçoit le prix en tant que la destination touristique favorite internationale à travers les résultats d'un sondage du ministère indonésien du tourisme. Le responsable du tourisme et l'économie créative à Nusa Tenggara Est, M. Marius Ardu Jelamu, a déclaré à Kupang jeudi que le prix a été présenté par le ministre du tourisme le mercredi 7 décembre à Jakarta. Labuan Bajo a reçu le prix à travers la sélection faite par le ministère du tourisme et l'économie créative après avoir vu tous les enregistrements du tourisme dans le monde entier ainsi que le tourisme antérieur. De plus, Labuan Bajo devient la destination touristique favorite après l'enquête réalisée par CNN, indiquant Labuan Bajo est le deuxième meilleur endroit snorkeling du monde après Raja Ampat. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine culturel et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Cette fois, je vais présenter la place de Kalimantan située à Lombok Est, dans la province de Nusa Tenggara Ouest. Donc, restez toujours avec nous à RRI World Service, la Voix de l'Indonésie. Outre par les zones courtes, vous pouvez également écouter nos émissions par www.voi.co.id. La place de Kalimantan est l'une de la zone touristique côtière située dans la partie sud de Lombok, précisément dans le village de Pemongkong, Lombok Est, dans la province de Nusa Tenggara Ouest. La distance de l'aéroport à la place de Kalimantan d'environ 92 km pendant environ 2h30. On peut y aller à partir de la ville de Mataram vers l'est. Pour la destination de la région de Lombok Est, prend environ 1 heure. Et puis, continuez vers le sud à travers le district de Sikur Sakra Keruak, Jerewaru, Pemongkong et Kalimantan. Avec le temps de voyage supplémentaire, environ 90 minutes. Les sables de cette place possèdent la caractéristique. Ils sont comme le poivre noir et les récifs coralliens qui sont encore préservés, qui peut être un objet touristique pour les activités de plongée en apnée, et aussi les vagues qui sont adéquates pour les activités de surf. La place de Kalimantan est assez longue environ 2 km. Les eaux de surface sont très calmes, avec des vagues assez loin de la plage. La topographie sur la plage est un peu unique. La combinaison de baies et quelques collines. Cette plage est exempte de déchets. Ici, vous pouvez profiter de la plage avec une satisfaction sans être dérangé par la présence d'ordures. La distance entre la plage de Kalimantan et le centre-ville de Mataram, environ 2 jusqu'à 3 heures, peut être atteinte par le véhicule privé ou une voiture de location, parce qu'il n'y a pas de transport public pour se rendre à cette plage. Elle est très déserte, vous ne ferez pas de restaurant, il n'y a pas beaucoup de visiteurs, et dans cette plage, vous ne trouverez pas un hôtel ou bien des auberges. Même ici, vous ne ferez pas les activités de pêche ou cultivateur des algues. Il n'y a pas beaucoup d'arbres. Pendant la journée, il fait très chaud. Si vous venez avec un autre groupe, nous pouvons être sûrs que vous allez courir pour trouver un endroit ombragé sur un arbre. Mais au cours de la journée, les vagues sont très calmes. Et si vous pouvez expulser la chaleur du soleil par la natation ou bien la plongée en apnée, parce que la beauté des scènes sous-marines est tout à fait remarquable. Une belle vue de la plage de Kalimantan a culminé dans la soirée, parce que vous pouvez regarder le coucher du soleil, un paysage incroyable. Vous voyez le beau paysage sur la plage déserte. Pour profiter de la beauté de cette plage confortablement, nous vous recommandons d'apporter votre propre nourriture et des boissons, parce qu'ici il n'y a pas de restaurant. Et n'oubliez pas de porter un écran solaire et des lunettes de soleil, ainsi qu'un chapeau. Et une autre chose importante, ne nage pas trop loin parce qu'ici il n'y a pas de sauveteur. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleurs et en pour titre la commémoration de la Journée internationale contre la corruption 2016 en Indonésie. Ce jour, le 9 décembre, tous les pays dans le monde commémorent la journée contre la corruption. La commémoration de cette journée est effectuée chaque année depuis l'organisation de la Convention de l'ONU contre la corruption, UNCAC, au Mexique, le 9 décembre 2013. Tandis que l'Indonésie commémore et fixe la Journée internationale contre la corruption comme Journée nationale contre la corruption le 9 décembre 2004. Depuis ce moment, l'Indonésie commémore la journée contre la corruption avec diverses activités. Ces résultats, dans le cadre de la commémoration de la journée nationale contre la corruption, HAKI, le gouvernement indonésien, dans ce cas la Commission pour l'éradication de la corruption, KPK, désigne et fixe la province de Riau en tant que l'hôte de la commémoration de HAKI et la Réunion internationale de l'intégrité, ou RIN, 2016. Une série d'activités de HAKI et RIN ont été commencées le 3 décembre 2016. Il y a le festival de HAKI et RIN tenu de 8 à 10 décembre 2016. Les activités de hockey impliquent les gens de 12 résidences et villes en province de Riau et les gens provenant de 33 provinces d'Indonésie. Le choix de la province de Riau comme lot de hockey, bien sûr, a leur propre raison. Selon le responsable de l'éducation et des services publics pour la prévention de KPK, Antoy Kayadi, bien que sur la base des données de KPK, trois gouverneurs précédents doivent faire face à la commission parce qu'ils sont impliqués dans des affaires de corruption, mais le gouverneur actuel de Riau est communément appelé Andy Rahman, a un engagement ferme à lutter contre la corruption dans la région qui devient sa responsable. Anto expliqué, Riau comme lot de Haki deviendrait l'élan à l'avenir pour effectuer un bon gouvernement. Les gens connaîtront Riau à l'avenir, pas le passé. Le passé devient l'expérience et la fondation de la province de Riau pour travailler plus activement et plus dur à la meilleure direction. Concernant l'hôte de l'organisation de hockey, le gouverneur de Riau, Arsha Juliandi Rahman ou Andy Rahman, a dit « L'événement de hockey était tenu dans le complexe du gouverneur de Riau sur la rue Diponegoro. Il y aura une exposition qui implique de nombreux organismes d'État, les entreprises d'État et les collectivités. En outre, il y a des spectacles culturels archipel. Tandis que les activités de Rin sont sous la forme de la déclaration de Riau, et l'atelier de l'intégrité des membres du Parlement régional de la province de Riau. Andy espère que tous les habitants de Riau soutiennent la mise en œuvre de l'événement de hockey et de Rin. De plus, la province de Riau est l'hôte de cet événement. Chers auditeurs, c'est en Indonésie encore pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même à même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Comme la fin de notre émission, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la Voix d'Indonésie dans le monde entier. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie. Voici le programme musical. Pour cette édition, je présenterai des chansons pop chanté par Teriana Fatia. Chers amis, vous pouvez écouter nos émissions sur les fréquences de 925 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Bon, on écoutera la première chanson intitulée « L'amour sans l'approbation » chantée par Terry.
Terjadi kita takkan bisa meneruskan ini bila harus memilih ku pilih bertahan untuk kita tapi sepertinya itu percuma sebab mereka tak pahami kita jangan menentang orang tuamu karena cintaku bukan untuk bertengkar aku siap terluka untuk kita tapi ku takkan pernah rela jika kamu takkan berhenti menangisi belajarlah untuk mencoba menerima hmm.
sebab mereka tak pahami kita. Jangan menentang orang tuamu karena cintamu bukan untuk bertengkar. Aku siap terluka untuk kita, tapi ku takkan pernah rela jika kamu takkan pernah berhenti menangisi. Belajarlah untuk mencoba
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix d'Ironésie, diffusée depuis Jakarta. C'était la première chanson intitulée « L'amour sans l'approbation » chantée par Terry. Elle est célébrée après avoir chanté une vieille chanson « Tes douze promesses » popularisée par Annie Carrera dans les années 1990. Chanter la vieille chanson est un défi pour elle parce que chaque chanteur et chanteuse doivent improviser sans perdre l'essence de la chanson. Teriana Fatia, mieux connue avec le nom Terry, est née le 14 juin 1984. Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons intitulées « Mon cœur est gelé », toujours chantées par Terry.
Menghibur diriku, ada
Vous écoutez toujours la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta dans le programme musical. Et cette fois, nous présentons des chansons pop chantées par Teriana Fatia. Teri avait la chance d'enregistrer lorsqu'elle a chanté en duo avec un chanteur qui s'appelle Rio Febrian dans l'album « Je suis ici » en 2004. Alors, en même année, Teri enregistrait finalement sa voix dans son album « Mon cœur est gelé » ainsi que pour dédier au groupe légendaire de Cousplus « Now and Forever » en 2004. En 2006, elle a lancé son premier album avec le titre de son nom, son single « Tendeuse promesse » est devenu très populaire dans la charte en Indonésie. En 2007, elle a fait un duo avec Julian Selly dans la chanson « Tentang Kita » composée par Anggun C. Sasmi et plus tard, elle a publié son deuxième album « Are You Ready » en 2011, le single intitulé « Tu devrais me choisir ». On écoutera Tendeuse promesse et Les grandes poussières. Tous les deux sont chantés par Teriana Fatia. Merci à tous et à bientôt.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.